France Culture.
Lundi prochain.
Plan large. Le rendez-vous cinéma sur France Culture, Antoine Guillot.
Des paroles et des gestes ce samedi dans Plan large avec Dominique Fischbach et Yolande Zoberman et aussi Charlotte Garçon. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Plan large. On ne le dira jamais assez ici, ce ne sont pas les sujets qui font cinéma, ce sont des paroles, ce sont des gestes échangés et le regard de cinéastes sur elles et eux. Ça s'appelle de la mise en scène et c'est tout ce dont on essaye de parler dans cette émission. En témoignent cette semaine encore les deux très beaux films qui nous occupent et nous ravissent. Le premier est la première aventure sur grand écran d'une grande documentariste qui a fait ses armes entre la France et la Belgique, en passant par Marie Galante et la Martinique et même la Précipauté du Groland. Elle s'appelle Dominique Fischbach et depuis 25 ans, elle filme une famille dont deux des trois enfants sont atteints de surdité profonde et en particulier une petite fille espiègle devenue une jeune femme à la beauté et à la présence irradiante, Manon Altazin. De cette épaisseur temporelle a surgi un film solaire et lumineux, elle n'entend pas la moto. Épaisseur temporelle encore dans le second film qui nous occupe, ressurgit dans une magnifique restauration, ressurgit à la fois de 1993 où il a été tourné et de quelque part dans les années 1930 où il se situe. C'est le magnifique « Moi, Yvan, toi, Abraham », première fiction d'une documentariste, là encore déjà repérée auparavant par ses saisissants « Classified People » récemment redécouverts et « Cast criminel » et qu'on a beaucoup entendu sur cette antenne nous parler d'autres documentaires tout aussi passionnants, « M et la Belle de Gaza », c'est Yolande Zoberman. On se réjouit qu'elles soient toutes deux dans ce studio aujourd'hui, car on s'est dit qu'elles avaient deux ou trois choses à se dire et à nous dire. Ça va être dans un instant. En fin d'émission, Charlotte Garçon exhumera, elle, la mémoire d'un grand cinéaste classique hollywoodien. Un rien oublié, mais remis en lumière par une judicieuse édition en coffret Blu-ray, c'est Mitchell Leisen. Mais dans l'immédiat, on ouvre l'album de photos familiales et on essaye de s'y retrouver.
Oh oh. Alors ça, c'est rigolo, hein?
C'est moi, ça.
Ça, c'est toi? Eh ben, c'est Maxime, c'est maman,
oui.
Maman Manon et Tata Barbara, quand ils étaient petits. Et il avait, je pense que Maxime avait ton âge, là. T'as vu?
Et moi, j'ai petite aussi.
Oui, toi aussi, t'es petite. Tu as quel âge?
2 ans.
2 ans? Oh, tu connais ton âge. Oh, regarde. Regarde.
C'est Paloma.
Eh ben ça y est, tu nous reconnais. Il y a longtemps, longtemps.
La Bibi là.
C'est, tu sais qui c'est?
Bibi.
C'est bébé Maxime. Oui. Avec toute la famille réunie. Qu'est-ce qu'on va trouver? Et oui. Ça, regarde. Tu sais que maman, elle n'entend pas, maman.
Quoi?
Eh ben regarde. Oui, et ben c'est.
T'entends pas la moto.
Non, et son petit frère Maxime, pareil, il n'entendait pas. Donc regarde, t'as vu, il parle avec les mains. T'as vu sur les photos? Voilà Maxime, dans les nuages, qui signe, qui nous envoie des messages.
Bonjour Dominique Fischbach.
Bonjour.
Voilà un extrait qui explique le titre de votre film. Déjà, c'est un petit garçon de 2 ans, il s'appelle Matteo. Il regarde avec sa grand-mère, elle s'appelle Sylvie, des photos de famille. Il croit s'y reconnaître, mais non, c'est son oncle à son âge qu'il voit, Maxime, on l'a entendu. Maxime qui était sourd comme sa mère Manon. Manon qui n'entend pas la moto quand elle passe sur la route en contrebas de ce chalet savoyard où ils se sont réunis le temps d'un été. d'emblée, il apparaît d'abord comme une image fixe, puis on le reverra en mouvement, cet absent, Maxime, qui est dans les nuages. Il est dans les nuages parce qu'il est décédé dans des circonstances qu'on apprendra plus tard, mais c'est comme le centre de ce film. C'est comme si votre film gravitait autour de lui, parce que c'est un fantôme bien présent, qui l'habite sans cesse, votre film, Dominique Fischbach.
Oui, cette famille a... extraordinaire, elle est vraiment extraordinaire dans sa communication et tout, parce que avec deux enfants sourds, ils sont très très communicants, et c'est paradoxal, quoi. Mais surtout, le principe du film, c'est que c'est un peu comme si cette photo de famille avait éclaté en puzzles et que ça se reconstruit devant nous, enfin devant les spectateurs, pour re-raconter toute l'histoire et re-raconter tous les obstacles qu'ils ont traversés, les joies, le tout sur 25 ans.
25 ans, parce que ça fait 25 ans que vous la filmez, cette famille. Alors, comment est-ce que vous l'avez rencontrée? Est-ce que c'était au sein de cette émission illustre à laquelle vous participiez, Striptease, que vous avez été amenée à la rencontrer?
Oui, à l'époque, je travaillais pour Striptease. Et je cherchais... j'ai toujours aimé la famille, hein, j'ai toujours aimé raconter la famille.
Oui, c'est un de vos grands sujets.
Oui, c'est un théâtre vraiment fascinant. Et puis surtout, ce qui m'intéresse, c'est les relations humaines, moi. Donc... voilà, là, je peux les explorer. Et je cherchais une famille avec un enfant handicapé ou un enfant différent. Et je suis tombée sur cette famille qui avait deux enfants sourds. Je n'ai pas choisi la surdité, a priori, quoi. Mais bon, là, il se trouve que voilà, les deux enfants, ils avaient deux enfants sourds. Et c'est d'abord Manon, en fait, qui m'a plu. Parce qu'elle était vraiment lumineuse et puis en colère aussi, et puis rebelle. Et j'aime bien les petites filles comme ça. Et je me suis attachée à cette famille qui m'a ouvert ses portes. Et on a tourné assez vite en plus, parce qu'ils traversaient une période difficile, puisque Manon devait arrêter sa passion. Et ça m'a aussi bouleversée.
Sa passion, c'était la gymnastique qu'elle devait arrêter à cause de l'implant qu'on venait de lui poser.
Voilà. Et donc, raconter comment elle se bat pour continuer sa passion... voilà, ça me touchait beaucoup. Et c'est une famille que j'ai retrouvée à plusieurs moments. J'ai fait trois courts-métrages avec eux. Et c'est avec ces archives-là, plus les archives familiales.
Mais c'est ça qui est très étonnant, c'est que vous les filmez, donc mais on ne sait pas toujours si ce sont vos images ou celles de cette famille qui se filment en permanence, mais qui ne filment pas les moments anodins ou pour essayer de voir comment marche la caméra. Elle documente, en fait, très précisément les moments importants de son histoire.
Oui, parce que quand je leur ai proposé de faire un film cinéma avec les archives que j'avais de mes films et mes films, la mère Sylvie m'a dit: mais moi j'ai des cassettes dans la cave, des mini DV qu'on n'a jamais regardé, et si tu veux je te les donne. Donc je les ai regardées, il y avait 80 heures. Et je m'attendais en fait à des plans pas terribles, bon, de fêtes de famille, comme vous dites, bon, un peu large, ou des zooms intempestifs. Et en fait, là-dedans, j'ai trouvé vraiment des moments cruciaux de leur vie, puisqu'il y avait toute la petite enfance à laquelle je n'avais pas assisté, donc la pose des implants, l'hôpital, l'orthophonie. Et donc, ça a vraiment enrichi le projet, puisque du coup, je récupérais aussi toute cette matière de leur histoire.
Et vous filmez aussi, alors je ne sais pas là encore si c'est vous ou eux qui l'ont filmé, mais aussi des difficultés, aussi des énervements. Il y a cette grande sœur qu'on ne voit pas dans le dernier moment de tournage du film, et qui est très présente, qui s'appelle Barbara, qui, elle, n'est pas sourde, et qui peut dire à sa petite sœur à un moment: écoutez, les sourds, vous pensez pas pareil que nous, et parfois ça m'énerve.
Oui, c'est ça. Oui, parce qu'elle dit, moi je suis à moitié sourde, à moitié entendante. C'est la grande sœur, hein, Barbara. Et donc, effectivement, elle a grandi avec son frère et sa sœur sourds. Et c'est vrai que les sourds, ils sont forcément dans un monde différent. Ils ont une perception du monde différente de nous, les entendants. Et ça donne des fois des décalages, soit des décalages dans le temps, soit des décalages dans la compréhension. Mais avant tout, là, je crois que ce film, il parle de la famille. Il parle de... Enfin, c'est ce que je cherchais, en fait. C'était, avec le handicap, d'exacerber les relations familiales et de voir comment ça se joue entre les parents, entre parents-enfants, entre enfants. Surtout que c'est une famille qui communique énormément et aussi qui est très combative. C'est-à-dire qu'ils sont tous animés d'une volonté, d'une pulsion de vie de dépasser les obstacles, chacun avec ses moyens, y compris Maxime, hein, qui a aussi traversé beaucoup d'obstacles dans sa vie. Et ça, ça m'a donné envie de les raconter, parce que c'est une leçon de vie, en fait. C'est quelque chose qui peut nous aider tous à affronter la nôtre, notre famille aussi, et surtout la communication dans la famille, quoi. Comment on se parle, qu'est-ce qu'on se dit, et qu'est-ce qu'il y a sous le tapis.
Mais d'autant que la surdité n'est pas envisagée dans ce film toujours comme un fardeau, comme une affliction. Par moments, Manon dit « c'est pas mal, des fois je suis bien, je suis dans ma bulle, je fais la sourde », dit-elle. Et il y a ce moment assez extraordinaire où elle raconte aussi comment... ayant découvert et vu et revu les 101 dalmatiens quand elle était petite, mais il n'y avait pas les sous-titres. Donc elle s'est imaginée elle-même sa propre histoire. Le jour où elle a découvert les sous-titres au cinéma, elle a trouvé ça formidable. Mais en même temps, le film des 101 dalmatiens, c'était un peu moins bien que ce qu'elle avait imaginé. Et j'imagine que vous vous êtes posé vous-même la question, notamment quand il y a l'usage de la langue des signes, est-ce que vous devez tout sous-titrer ou pas? C'est-à-dire, est-ce que vous devez laisser le spectateur imaginer aussi ce qu'elles peuvent se dire et se faire son propre scénario dans la tête? Et puis plus tard, il y a une grande scène importante qui, elle, est complètement sous-titrée.
Alors, le film va... Enfin, il est sorti. Hein, il est sorti mercredi, j'ai encore pas réalisé.
Oui, ça y est.
Et il sort partout sous-titré en français. On a choisi ça avec le distributeur parce que, comme ça permet l'accès aux sourds. Et surtout, ça permet des séances mixtes, sourds et entendants, pour que justement les deux mondes se retrouvent et partagent un moment ensemble. Et ça, c'est très important pour moi, parce que justement, je veux essayer de casser un peu les murs et faire en sorte que la compréhension des deux mondes avance. Et la séquence en langue des signes, elle était forcément traduite, parce que c'est très important ce qui se dit. Puisque justement, on voit bien que cette langue, elle est riche, elle est profonde, on peut dire des tas de choses, on peut philosopher en langue des signes, et que je suis convaincue que c'est une langue à défendre aussi, parce que il y a des sourds qui sont très à l'aise dans cette langue et pas du tout dans l'oralisme. Et j'aimerais même qu'elle s'apprenne à l'école au même titre que l'anglais, l'espagnol, parce que vraiment, elle est riche et elle peut correspondre à certaines personnalités plus dans le gestuel et qui aimeraient pratiquer cette langue aussi. Donc c'est un film qui doit ouvrir des champs de possibles. Enfin, en tout cas, je l'espère.
Alors, c'est un film où on voit, on l'a dit, des images d'il y a 25 ans et puis plus récentes. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que ces images, vos personnages les regardent.
Qu'est-ce qu'on fait, Maxime? Tu prends ta valise? On va aller à l'école. On va les voir et après...
Oh, ça, c'était pas facile, ça. Tout expliqué.
Regarde. Oui, il y a le doudou. Maxime, c'est le doudou. Mais regarde, après, tu vas aller voir Béatrice en voiture. Avant, avec maman et Maxime, tu vas aller à l'école. Et après, tu vas aller voir Béatrice. Et après, tu vas aller dormir chez mes grands. D'accord?
Ma voix n'était pas...
Comment?
Ma voix?
Bah, elle était... D'une jeune sourde, oui. Puisqu'après, tu l'as beaucoup travaillé en orthophonie, avec l'implant.
Yeah. Mm.
Mais c'était ton charme de plus?
Je veux t'habiller. Je veux ma pyjama. Un ours. Un ours. Un ours.
c'est Jamin que je vais mettre comme vous parle.
Oui, c'est grand-mère, ta grand-mère qui t'avait cousu ça.
Ce qu'il y a de très beau dans le trajet même qu'accomplit le spectateur dans votre film, Dominique Fischbach, c'est qu'il peut être au début un peu désarçonné, déstabilisé par la manière de parler, de la même façon que Manon est bouleversée de la façon différente qu'elle avait de parler enfant avant la pose de son implant. Or, le trajet du spectateur, c'est de s'habituer complètement et d'être mis dans un état d'attention particulier qui fait qu'on oublie complètement après et on entend vraiment ce qu'elle nous dit. Dominique Fischbach.
Oui, oui, c'est tout l'effet des voix différentes, hein, qu'elles soient avec un accent ou là, avec une sonorité un peu dans métallique, un peu comme ça. Mais Manon a beaucoup d'émotions dans sa voix aussi, et c'est ça aussi qui passe la rampe et qui fait que finalement, pour les entendants en tout cas qui verront le film, ils vont décrocher très vite des sous-titres pour apprécier. La voix telle qu'elle est, parce qu'ils comprendront qu'on la comprend.
Yolande Zoberman, bonjour. Vous avez vu le film de Dominique Fischbach. Quel trajet vous avez fait, vous, dans ce film?
Ben, j'ai trouvé très touchant, très fort aussi sur ces enfants qui sont filmés au départ, comme ça, dans des... On a presque l'impression de scènes soviétiques, justement, avec tous ces gros plans et ces... Et c'est ralenti, et on a vraiment une impression de bonheur. Moi, ce que je trouve aussi très fort, et ce que j'avais déjà remarqué, c'est le langage qui passe par le corps aussi. Et ça, c'est effectivement quelque chose qui pourrait être enseigné à l'école. Moi, j'ai souvent pensé qu'on devrait faire des cours de mime à l'école, et au fond, le langage des malentendants ou des ça passe aussi un peu par le mime, même si c'est différent. Et ce que je trouve, c'est à quel point ils sont vivants, quoi, quand ils sont à l'intérieur de cette famille. Il y a une attention qu'on a rarement à ce point. C'est-à-dire que certainement une façon de compenser, d'être toujours à l'écoute justement de ce qui a du mal à se dire. Et ça, c'est très beau. Et aussi de se rendre compte que jusqu'à il n'y a pas si longtemps, les gens souffraient énormément, étaient complètement marginalisés, il n'y avait rien qui était prévu pour eux. Et voilà, donc oui, c'est des... Moi, je connaissais une Américaine qui a été élevée par sa tante, qui était sourde-muette et en même temps prof de karaté. Et toujours, je me disais, c'est une grande chance, parce que je me rends compte qu'il y a un éveil comme ça à tout. Et chaque fois que j'ai rencontré des enfants de sourds-muets, j'ai remarqué cet éveil.
Juste, Dominique Fischbach.
En fait, juste, faut préciser, en fait, c'est pas sourds-muets, ils sont pas systématiquement muets, les sourds. Hein,
c'est, ouais, c'est vrai.
Il y a les sourds et les muets, et c'est pas forcément accolé, quoi. Et puis, la langue des signes, c'est une langue, en fait, c'est vraiment une langue avec sa culture, et c'est pour ça que c'est important de la défendre, parce que c'est une minorité. Et donc, c'est des gens, voilà, comme une minorité qui parlerait les derniers à parler cette langue, quoi, parce qu'aujourd'hui, elle est mise en danger, justement, par l'arrivée de l'implant, qui voudrait rendre tout le monde valide, et puis que tout le monde marche droit, entende et parle, voilà. Alors que c'est une culture à part entière, c'est un... Voilà, c'est comme un autre pays avec une autre langue.
Mais qui est aussi un bonheur à filmer. J'ai pensé à un film d'une de vos amies, Yolande Zoberman, Nourrit Aviv, qui a fait un film qui s'appelait Signé en 2018. C'est vrai que dans cette langue, pour le coup, il y a un investissement du corps permanent qui rend ça très chorégraphique. On a vraiment l'impression de voir un ballet de mains, de signes. Et c'est extrêmement beau.
Oui, moi, je l'ai découvert la première fois dans un spectacle de Pina Bausch, où il y avait un de ces danseurs qui s'approchait devant la scène et qui chantait « The Man I Love » en langue des signes. Ça fait très très longtemps et j'ai été complètement fascinée. Et surtout, ce qu'on voit à travers les signes quand ils parlent leur langue, c'est que on voit la personnalité. Un peu comme on voit aussi la personnalité de quelqu'un quand il parle. Et ben pareil, là, qu'on entend la personnalité, là, on voit aussi le tempérament. Certains sont très élégants, d'autres un peu pataux. Enfin voilà, c'est vraiment, moi j'adore les regarder, c'est vrai.
Et il y a aussi dans ce film qui, entre autres, parle de surdité, parce que ça parle beaucoup de paroles, de communication, et ça parle de son aussi en permanence. On l'a entendu beaucoup dans le premier extrait. Il y a une sensorialité du son. Alors, on est dans ce chalet à la montagne, entouré d'insectes, de bruits d'oiseaux et autres. Comment est-ce que vous avez pensé cette dimension sonore de votre film?
Ce que je voulais, c'était aussi travailler les sons directs, quoi, hein, les sons de la nature, pour bien faire le contraste avec, pour faire apprécier aux entendants justement tous ces sons que souvent on n'apprécie pas parce qu'on passe à côté, parce qu'on est pris par nos préoccupations, alors qu'en fait il y a tout un univers sonore. Si on se met à écouter la nature, par exemple, on éprouve vraiment une détente, et ça c'était important de le mettre en contraste avec les moments où Manon, elle enlève justement la partie extérieure de son implant et que là, c'est le silence, quoi. Et elle est dans le silence. Quand je lui demande « Qu'est-ce que t'entends ?» Mais rien du tout. Rien. Voilà. Et ça, c'était important de faire ressentir au spectateur ce point de vue sonore-là pour qu'il comprenne que, par exemple, si vous n'articulez pas bien en face d'un sourd, s'il a un implant, il ne vous comprend pas. Et aussi, quand il y a du bruit, comme pour les appareils auditifs, hein, quand il y a beaucoup de bruit, de la musique, du monde, et tout ça, ça devient très, très douloureux pour les gens qui sont implantés ou qui ont un appareil.
Mais ça donne la possibilité de s'abstraire du monde aussi, de temps en temps.
Et oui, on aurait envie.
Et c'est pas mal.
Des fois, on aurait envie hein, d'enlever tout, mais on ne peut pas.
Et vous avez aussi une très belle manière de filmer, je suis tout à fait d'accord avec Yolande Zoberman dans votre attention au visage, mais votre attention à la lumière sur un visage. On a vraiment, et là encore, vous nous mettez sans doute dans la peau de Manon, qui est comment est-ce qu'on ressent la lumière sur un visage, tout ce qui ne passe pas par le son, précisément.
Alors c'est marrant parce que vous dites, parce que Manon, elle a vraiment une intuition avec la lumière, quoi. C'est-à-dire qu'elle se place toujours, mais super bien, quoi. Tous les chefs opérateurs qui l'ont filmé m'ont dit, mais c'est incroyable, quoi. Parce qu'en fait, évidemment, elle est hyper visuelle, hyper hyper visuelle, et donc elle sent, et puis elle a ce visage aussi qui est quand même très très lumineux, parce qu'elle a la lumière en elle aussi.
Une cinégénie extraordinaire.
Pardon.
Elle a une cinégénie extraordinaire.
Oui, c'est frappant.
Et vous allez continuer à la suivre, c'est un point d'étape, elle n'entend pas la moto.
Elle n'entend pas la moto 2, c'est ça que vous... Bah écoutez, je ne sais pas encore, je vais laisser passer du temps, je vais faire d'autres films aussi, et puis je vais attendre, mais oui, il y a quelque chose qui se passe, enfin moi il y a eu une rencontre formidable sur ce film, c'est le petit Matteo, qui m'a vraiment complètement fascinée, parce que lui, il est la suite, quoi. Lui, il parle la langue des signes et il oralise, donc il est ce point de réunion là, de ces deux langues, et j'ai vraiment, je suis curieuse de savoir ce qui va devenir.
Bientôt la suite. Dominique Fischbach, c'est Laurent Ganem qui signe la musique de votre film Elle n'entend pas la moto, à voir en salle depuis ce mercredi. À noter donc, comme vous l'avez dit, qu'on peut voir que le film est présenté en version sous-titrée en français. Vous pouvez aussi vous renseigner auprès de vos salles préférées pour le voir en version sous-titrée SME. C'est pas exactement le même sous-titrage, c'est le sous-titrage pour sourds et malentendants. et il existe aussi en audio description. Vous écoutez France Culture, Plan Large, vous restez avec nous, Dominique Fischbach. Dans Plan Large, on aime bien écouter les films, et en particulier leur début, surtout quand, comme celui-là, il s'y prête particulièrement.
Мамо, де влали домой не, матька чає, де вла головой.
Я боюсь чертей.
А ты мне покажешь свою пипку? Я никогда не видел, какая у обрезанных пипка.
А ты мне свои покажешь?
Ладно.
А теперь ты.
C'est donc comme ça que commence Moi, Yvan, toi, Abraham, Yolande Zimmermann, des murmures, des voix, des langues différentes, des chants dans l'obscurité, et puis allongés l'un face à l'autre dans une grange, deux garçons, l'un plus petit que l'autre. Il y a Abraham qui dit avoir peur des ombres, et Yvan qui lui demande de lui montrer sa bite parce qu'il n'a, il n'en a jamais vu de circoncise. Abraham est tout à fait d'accord, si évidemment Yvan lui montre aussi la sienne, et puis il rigole beaucoup de cette situation. Comment on imagine un début de film comme ça? C'est comme si Yvan et Abraham étaient sortis de tout ce murmure de voix que vous nous avez fait entendre au début. C'est aussi une manière de montrer qu'il y aura des voix un peu fantomatiques, mais surtout une incarnation très irrévérencieuse avec ces gamins qui sont à la fois avides de découvertes et très rigolards.
Ben en fait, justement, par mon expérience de documentariste avant, j'avais vite compris que si les gens que je filmais pouvaient être un mystère pour moi, j'étais aussi un mystère pour eux. Et donc, ce double mystère, c'est ce que j'essaie d'explorer à chaque fois dans mes films, comment chacun voit l'autre et comment aussi entrouvrir une porte sur l'autre, en fait. Et toutes ces voix différentes, c'est toutes ces voix de l'Est, c'est toutes ces voix que j'ai cherchées. Moi, j'aime les mélanges, j'ai toujours aimé les mélanges. Et j'ai toujours aimé être à la frontière aussi entre les gens. Et donc j'ai exploré cette frontière d'un monde que je connaissais pas, mais j'avais fait un rêve en fait, j'avais fait un rêve une nuit, je m'enfonçais dans un tunnel, je marchais avec un petit garçon que j'aimais beaucoup beaucoup et qui m'aimait beaucoup, et il y a une petite fille blonde, on croisait toute ma famille, il y a une petite fille blonde très jolie qui s'approchait du garçon. Et qui lui disait, à la fin du tunnel, on va nous déporter. Mais moi, j'ai une voiture particulière, viens avec moi. Moi, j'avais très peur qu'il parte avec elle. Et il a dit, non, je reste avec elle en me montrant. Et donc, j'étais hyper contente. Et on sort du tunnel. Et effectivement, il y a des autobus. On monte dans l'autobus. On va au fond de l'autobus. Et par la vitre, on voit des tablées entières de chassidim, c'est-à-dire de juifs... orthodoxe, avec des cafetans et des papillotes, et qui mangeaient des fruits que j'avais jamais vus. C'était des tablées extrêmement joyeuses. Et on essayait de leur faire des signes par la fenêtre pour qu'ils s'en aillent, mais ils ne nous voyaient pas. Et je me suis réveillée très heureuse de l'amour de ce petit garçon. Et je me suis dit, je viens d'une histoire de vie et qui a été traversée par la mort, mais d'abord, avant tout, une histoire de vie. Et c'est cette vie que je vais aller chercher.
Et cette vie, c'est celle de ces deux petits garçons, deux amis. L'un est polonais, l'autre est juif polonais. Mais pour le coup, ils ne partagent pas la même religion. Mais ils sont très amis. Et c'est ça qui est important, effectivement. Parce que, rappelons, voilà, vous avez tourné ce film dans un espace qui venait de s'ouvrir peu auparavant, en 1993. On est juste après la disparition de l'espace soviétique, son ouverture au monde. Vous tournez à la frontière de la Pologne, la Biélorussie, l'Ukraine. Alors, vous avez dit aimer les frontières, là, pour le coup. Vous avez été servi, mais vous recréez un monde qui est le monde disparu de ce qu'on a appelé le Yiddishland. Et vous n'êtes pas justement dans quelque chose à la fois de muséographique ou de figé ou d'hommage. Vous montrez que c'est un monde traversé de contradictions et que quand on est un gamin, quand on est une gamine aussi, bah, tout ça est très pesant et on peut avoir envie de s'enfuir et c'est pas grave.
Absolument. Et c'est un monde qui était en train d'exploser avant la guerre. C'était un monde qui était... Il y avait les communistes, il y avait les sionistes, il y avait les religieux, il y avait les athées. C'est un monde qui... Les gens partaient à la ville. C'est comme tout le monde paysan. Le monde, il était en train de se défaire. En fait, cette amitié entre un enfant juif et un enfant polonais qui est là comme apprenti, en fait. Vous savez, j'ai été en Pologne pour la première fois de ma vie. Mes deux parents viennent de Pologne, de la même rue même. Et tout d'un coup, j'avais oublié mon passeport comme un acte manqué. Et on a arrêté la voiture et il y avait un paysan qui travaillait. Et on lui a demandé, moi je pose jamais ce genre de questions, est-ce qu'il y avait un village juif ici? Il a dit oui, moi je me rappelle très bien parce que je travaillais chez les juifs. Et d'ailleurs, je parle yiddish. Et donc, j'ai commencé à parler yiddish avec lui. Et il m'a dit, mais toi, tu parles yiddish parce que tu travailles chez les juifs. Et j'ai dit, non, non, moi, je suis juive. Et il m'a pris dans ses bras, comme ça, en disant, yiddish et kind, une enfant juive. Et pourtant, quand je lui avais dit, mais est-ce que tu les regrettes? Alors qu'il m'avait dit, à l'époque, il y avait tout, du théâtre, du cinéma. Il m'a dit non. Et comme j'avais rien senti d'antisémite dans ses bras, j'ai voulu comprendre pourquoi il m'a dit non. Et j'ai fait toute une recherche là-dessus et c'était assez passionnant parce que on se rendait compte que ce soit les gitans ou les juifs, il y a beaucoup de questions de gitans dans le film. C'était l'autre un peu diabolique dans les yeux des paysans, mais l'autre dont on a besoin parce que le diable à l'Est, on en a besoin pour créer la terre, on en a besoin. Et paradoxalement, les gens confiaient leur corps aux médecins juifs, et même quand il y avait des conflits, ils allaient voir le rabbin plutôt que des hommes de loi. Donc il y avait tous ces paradoxes. Rencontrer un gitan ou un juif le premier jour de la récolte, ça veut dire que votre récolte va être luxuriante. Je veux dire, il y avait toutes ces contradictions qui existaient en même temps. Et voilà, donc j'ai traversé ça. J'ai bu comme une cosaque avec tout le monde. C'était une expérience de vie extraordinaire. Et par contre, j'ai tourné effectivement pas en Pologne, mais en Ukraine et en Biélorussie.
Les gitans, vous en parliez, les voici.
So, yeah, we're... малограда будешь. Ай, мроб шал гренца традия. Хередиш ляпа.
Une jeune fille à la voix d'or et aux belles jambes, à laquelle s'intéresse beaucoup Yvan dans leur aventure. Il se trouve que le petit Abraham, quand il coupe ses papillotes pour pouvoir s'enfuir avec son copain, bah, tout le monde va le prendre pour un tzigane. Il se trouve aussi que celui qui l'interprète était lui-même tzigane. Vous parler des frontières, mais vous aimez beaucoup les brouiller, ces frontières, et montrer que toutes ces questions ethniques, religieuses, tout ça, c'est des questions de convention, d'apparence, et que l'un peut être un autre sans cesse.
Oui, en fait, ce qui était bouleversant sur le tournage, c'est qu'on était très nombreux, et j'avais le sentiment que tout le monde cherchait avec moi un sentiment. Un sentiment, c'est-à-dire que pour moi, il n'était pas question de dire « voici comme ça s'est passé ». Ça m'aurait dégoûté presque. Je suis allergique à la nostalgie. Je cherchais au présent quelque chose que je ne connaissais pas. Et j'avais cherché ça avec, en faisant des recherches, parce que moi j'adore faire des recherches avant de d'écrire un scénario. Et j'avais rencontré des gens qui avaient vécu, des juifs qui avaient vécu en Pologne avant la guerre. Et on avait un pacte, c'était de ne jamais parler de la guerre. Parce que je voulais pas qu'ils revisitent leurs souvenirs. Et il y en a un qui m'a dit, quand je changeais de cassette, il y avait encore des cassettes, je sais, on n'a pas le droit de parler de la guerre, mais je tiens à vous dire que j'ai connu une situation où l'état d'homme était impossible, et pourtant, même dans cette situation, j'ai rencontré des hommes. Je vous promets, les hommes, ça existe. Et ça, je m'en souviendrai toujours, c'est-à-dire... Et tout d'un coup, j'ai découvert chez eux un amour pour ce pays, la Pologne, qu'ils ont tant haï après.
Mais qui était le pays de leur enfance.
Qui était le pays de leur enfance. Et où on disait quand même pendant longtemps, heureux comme un juif en Pologne. Et donc il y avait toutes ces contradictions qui étaient là ensemble. Il y avait le yiddish qui devait tous apprendre, avec un professeur incroyable, qui était en fait un des acteurs d'un très grand metteur en scène de théâtre qui s'appelait Mirhoels, qui dans un premier temps avait été protégé par Staline. C'était un théâtre d'avant-garde en yiddish. Et puis il a été tué, et tous ces acteurs ont été tués, sauf deux qui n'étaient pas présents ce jour-là, une jeune fille et un jeune garçon. Et le professeur de yiddish, c'était le jeune garçon. Et donc, le fait que les acteurs l'adoraient, il était... Enfin, au départ, il avait très peur d'apprendre le yiddish à Romain, qui était donc joué à Abraham. Parce que pour moi, il fallait que ce soit ou un petit garçon juif qui avait l'air d'un gitan, ou un petit garçon gitan qui avait l'air d'un juif.
Et c'est très drôle d'ailleurs, parce que quand il veut dire des gros mots à sa mère, il les dit en polonais, parce que là, il est sûr qu'elle ne va pas comprendre. Dominique Fischbach, je ne sais pas si vous aviez vu le film à sa sortie en 1993, mais en tout cas, vous l'avez vu ou revu pour cette émission.
Oui, je l'ai revu. Enfin, je l'ai vu. Je l'ai découvert, hein, parce que je connais bien le travail de Yolande Zuberman en documentaire, parce que c'est un très très beau travail, et que j'ai donc vu tous ses documentaires. Et là, j'ai découvert cette fiction. Et bon, moi, je m'attache. Enfin, je suis quelqu'un qui vit les films. J'ai pas le contexte historique tout à fait. Enfin, je suis pas complètement ignare, mais en fait, je veux être touchée. Quoi, c'est vraiment par l'émotion que j'arrive à. Et là, dès la scène, dès la première, j'adore la première scène de ce film. Mais vraiment, c'est hyper, c'est super bien parce que c'est en plan séquence. Ils sont parfaits les deux, et c'est intrigant. En même temps, c'est pas trop vers où ça va aller cette histoire de circoncision. Je veux voir ta bite. On se demande un peu qu'est-ce qui va se passer. Et en fait, voilà, c'est vraiment un très très bon début. Voilà, donc je suis restée. J'ai continué et j'ai été très attachée à cette histoire d'amitié parce que évidemment ça correspond complètement à ce que je défends aussi, quoi. C'est-à-dire que en fait peu importe les différences et que en fait c'est quand on a de la sympathie, de l'empathie pour quelqu'un, voilà, c'est comme ça, et ça passe outre les frontières et les religions, Et donc ça ils sont vraiment extra quoi, vraiment les deux petits là, ils sont vraiment formidables, les deux en plus. Et donc je les ai suivis dans cette histoire terrible, hein, qui est de enfin voilà, sur l'antisémitisme qui monte, la peur, le rejet, enfin toute cette haine qui revient aussi aujourd'hui parmi nous et donc ça m'a, enfin je sais, c'est un film que je recommande.
Et ce qui est très beau dans votre film, Yolande Zobermann, c'est que j'imagine que tout ça était très scénarisé, très écrit, mais on n'en a pas du tout l'impression. Ah, c'est-à-dire qu'on a l'impression que le film est porté par le trajet de ces deux enfants qui vont se trouver, se perdre, rencontrer du monde. Comment concrètement ça s'est passé? Est-ce que le film, parfois, s'est inventé au fur et à mesure dans ces territoires où on a l'impression que vous prenez un grand bonheur à vous perdre?
En fait, jamais. C'est-à-dire que le film était écrit... là où on s'est perdu dans le temps. C'est-à-dire qu'on avait un luxe énorme, on avait du temps. Et, c'était génial. Mais si vous voulez, ce qui était formidable, c'est que moi, je tournais avec une équipe ex-soviétique de toutes les nationalités. Donc, tout le monde était un peu perdu. Tout le monde était pourtant ensemble. Et il y avait le yiddish au centre. Et donc, c'était...
C'était devenu comme la langue commune, quoi. La lingua franca était le yiddish.
Ouais, exactement. Et moi, je suis née à Paris. Je parle, comme vous l'entendez, le français complètement. Mais il y a quelque chose où je ne comprends pas obligatoirement tous les codes. Et en fait, c'est pour ça que j'ai souvent aimé tourner à l'étranger, parce que j'avais l'impression que là, c'est pas grave de pas comprendre tous les codes, parce que c'est clair, t'es étranger. Mais là, tout le monde était un peu étranger. Et ça, c'était génial. Et oui, en fait, vous avez raison, tout était brouillé. La seule juive, entre guillemets, vraiment du film, c'est celle qui joue la petite Mania, la petite paysanne, qui raconte le diable et l'antisémitisme. Et en même temps, tout est baigné dans des véritables recherches. Le tableau qu'on a dans le film, c'est un tableau que j'ai vu en Pologne, on m'a amené le voir en Pologne.
Qui montre comment les juifs saignent les enfants chrétiens pour fabriquer le pain azim pour Shabbat.
Pour Pessah. Et en fait, pour la Pâque. Et en fait, c'est une croyance qui continue à exister. Quand on dit à la campagne, mange un enfant, sinon je te donne pour la matzah, il comprend très bien ce que ça veut dire. Donc c'est une croyance qui en même temps continue. Et moi, j'avais un chef décorateur que j'adorais, qui me disait, tu sais, si je fais le film, c'était un artiste, il a fallu le convaincre vraiment, il voulait plus jamais travailler pour le cinéma. Et il m'a dit, une des raisons pour lesquelles je fais ce film, c'est que je veux comprendre pourquoi vous, les Juifs, vous buvez le sang des enfants. Et la première fois, j'ai rigolé, la deuxième fois, j'ai moins rigolé, et la troisième fois, je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose, parce que sinon, on va devoir se séparer. Et comme il était religieux orthodoxe, je lui ai dit, tu sais, c'est pas possible. Il me dit, pourquoi? Je lui ai dit, parce que c'est pas kasher. Parce que, en fait, on peut manger du beurre sur la matzah, s'il y avait du sang, on pourrait pas. Et il m'a cru. Et après, je me suis dit, mais pourquoi? Pourquoi ça n'a pas été dit avant? Mais il paraît que ça a été dit, mais on croit ce qu'on veut bien croire, quoi.
Ça ne peut pas s'entendre. Un dernier mot, Charlotte Garçon, vous avez vu, vous aussi, moi, Yvan, toi, Abraham.
Oui, moi, j'ai beaucoup aimé ce côté à la fois un peu roman russe, quoi. Il y a une atmosphère comme ça. Et le fait qu'on n'arrive pas tout à fait à se repérer dans le temps, on comprend qu'ils fuient avant d'être persécutés. D'une certaine façon, ils ont eu cette espèce de pulsion de liberté, comme s'ils avaient une préscience de ce qui allait arriver à un niveau historique, alors que ce sont des enfants et ils ne sont pas du tout en train de penser à ce qui arrive à l'Europe. Mais donc, nous, on peut le voir. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que vous avez une liberté de mélange des genres, au fond. Parce que quand j'ai vu puisqu'on arrive à un village complètement dévasté, on pense à une atmosphère de western. Et donc, voilà, on est libre de circuler là-dedans. De même, j'aime beaucoup cet éleveur de chevaux qui dit les noms, ça sert qu'à avoir des ennuis. C'est presque quelque chose de déridien là, dans le film. Et cette liberté-là de l'athée, on comprend qu'on ne sait pas d'où il vient, ses chevaux viennent de Hongrie, etc. Pour moi, ça définit bien le film. Quoi, entre
et un des bonheurs de votre film, c'est que cet éleveur de chevaux, c'est Daniel Olbryski, acteur fétiche de Ndjaye Vaida, et qu'on retrouve aussi dans votre film les grandes figures qu'on voyait dans le cinéma Cosmos à l'époque, avant que ce soit l'Arlequin du cinéma russe, qui sortent des films de Mikhalkov ou de Tarkovsky.
Да еще много-много-много, много раз, да еще раз, еще много-много раз. Я на гору в попыхах, чтоб чего не вышло, а на горе стоит ольха, а под горою вишня. Хоть бы склон буить плющом, мне бы то отрада. Эй, хоть бы что-нибудь еще, все не так, как надо. Эх, рада, что ты, да еще рада, что ты. Еще много-много-много-много-много раз, да еще раз, все не так, как надо. Где-то кони пляшут в такт, нехотя и плавно вдоль дороги все не так, а в конце подавно. И не церковь, и не кабак, ничего не свято. Нет, ребята, все не так, все не так, ребята. Эх, раз, да еще раз, да еще много, 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 много раз.
Merci Yolande Zobermann. On avait tout à l'heure entendu le début de votre film. Eh bien, ici, c'était la fin avec ses variations sur un air tzigane de Vladimir Vysotsky, dont la voix est aussi rappeuse que la beauté de vos images en noir et blanc. Ça, on n'en a pas parlé. Elles sont vraiment très, très belles. Moi, Yvan, toi, Abraham, c'est à voir et revoir toutes affaires cessantes sur grand écran depuis mercredi. Pour rester en territoire est-européen, on vous recommandera également de vous aventurer en terre bulgare après avoir révélé en salle il y a 2 ans, peu après le Festival de La Rochelle, la cinéaste Binka Yelyaskova avec Nous étions jeunes et le ballon attaché. La société Malavida, grande défricheuse du cinéma de l'espace ex-soviétique, met au jour La piscine et la vie s'écoule silencieusement, qui montre encore combien la cinéaste était irréductiblement libre, rebelle et à contre-courant. Et de fait, ces films ne sortaient pas toujours, comme souvent dans l'espace soviétique. Il faudra attendre 1988 pour que La vie s'écoule silencieusement, qui avait été tournée en 1957, descende des étagères de la censure. Binka Yelyaskova, éclat d'une cinéaste révoltée, c'est à voir en salle et sur grand écran, en attendant une très probable édition en DVD et Blu-ray. Des femmes cinéastes à l'honneur encore, avec les plus prestigieux des prix cinéma. Le prix Louis Deluc 2025 a été décerné mercredi à Afsia Herzi pour La petite dernière, et puis pour le premier film à Valentine Kadic pour Le rendez-vous de l'été. Quant au prix André Bazin, décerné par les cahiers du cinéma, un premier film, c'est Louise Aymon qui l'a emporté avec L'englouti. Bravo à L3, on se réjouit d'autant plus qu'on les a reçus toutes les trois dans Plan Large et que vous pouvez donc les réécouter en podcast sur franceculture.fr et l'application Radio France. Et puis on réentendra même Louise Aymon la semaine prochaine ici même. Une grande cinéaste de documentaires et de fiction qu'on aimait beaucoup ici et qui en avait d'ailleurs consacré une émission entière en 2020, 5 ans après sa disparition très prématurée, c'est Solveig Anspach. La plateforme Tenk lui rend hommage en ce mois de décembre avec un focus sur son travail documentaire. Ceci annoncé, place à d'autres variations tziganes, beaucoup plus hollywoodiennes. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da
What is that filthy mumbo jumbo?
Stain to make your white skin gypsy. And in your ears, I put holes. Little holes.
Holes?
Yes. For my husband's beautiful gold earrings. When I finish, you even smell like gypsy.
Now look here, old girl. Let's not overdo this. Ow!
Lay still.
There's no need to tear off my ears.
Come.
Oh!
It hurt?
No. Oh, but I can still die of tetanus.
Tetanus? I do not know. Come.
Vous aurez peut-être reconnu la voix de la gitane fredonneuse et perceuse d'oreilles, c'est celle de Marlène Dietrich dans Les Anneaux d'Or, Golden Earrings, qui fut l'un des plus gros succès de l'automne 1948, et ce sera l'ultime triomphe de celui qui fut l'un des grands petits maîtres d'Hollywood, Mitchell Leisen, cinéaste à rien oublier aujourd'hui, contrairement à certains de ses scénaristes comme Billy Wilder ou Preston Sturges. Un coffret DVD et Blu-ray vient de paraître qui répare cette injustice avec 10 de ses films, du Signe de la Croix de Cécile B. 2000, dont il avait signé les décors et les costumes en 1932, au précité Anneaux d'or, en passant par La mort prend des vacances, où chacun son, à chacun son destin, un livret l'accompagne. Ce coffret, il est signé Denis Rossano, qui le présente en esthète subversif. Et vous, Charlotte Garçon, je vous cite dans votre article dans les derniers cahiers du cinéma, vous y voyez une combinaison de luxe aérien et d'écrasé sans grâce, de brillant et de balourdise dont les dérapages incongrus font tout le sel, Charlotte.
Oui, Antoine, avec cette Marlène Dietrich en gypsy face dans ce film anti-nazi et secrètement queer, Les Anneaux d'Or, mais aussi des plumes d'autruche géantes qui simulent des vagues dans un numéro dansé de la comédie musicale policière Rythme d'amour, ou bien une desperate housewife du XVIIe siècle qui va rejoindre un navire pirate dans L'Aventure vient de la mer, en technicolor, somptueux. C'est un film qui est le plus cher, paraît-il, de l'histoire de la Paramount. Alors Mitchell Leisen, c'était tout ça, une certaine audace au mépris de la vraisemblance, une tendance au kitsch, mais tenue en respect sous le vernis classique et classieux de l'âge d'or des studios hollywoodiens. Comme par hasard, la Paramount, c'était aussi le studio d'Ernst Lubitsch, cet Allemand au comique plutôt appuyé quand il tournait en Allemagne, devenu génie de la comédie sophistiquée, de l'ellipse et du sous-entendu une fois installé à Hollywood. Alors, si comme tout bon cinéphile, vous avez écumé dans les salles et dans votre salon tout les cinéastes moins oubliés, Lubitsch, mais aussi Frank Capra ou Léo Macaré, et que cette idée d'avoir vu tous les films vous déprime, eh bien ce coffret vous donnera l'impression miraculeuse qu'il y a du rab quelque part dans l'escarcelle patrimoniale. Il y a une sorte de rabicoin de l'histoire du cinéma qu'on peut encore explorer, puisque l'histoire, elle, a quand même tendance à, enterrer les moindres maîtres assez vite. Alors de la Lubitsch Touch, Mitchell Leisen retient la partie la plus tactile, les gros plans sensuel sur les mains, notamment dans Jeu de main, donc en 1935, dans lequel Carole Lombard est manucure dans un palace et qu'elle tente d'y trouver un mari millionnaire, mais évidemment elle tombe amoureuse d'un héritier rejeté par les siens, joué par Fred McMurray encore tout jeune, celui-là même que Billy Wilder, quand il sera cinéaste, emploiera dans l'atmosphère beaucoup plus, beaucoup moins prime sautière en tout cas, d'assurance sur la mort. Alors comment filmer un désir qui naît? Eh bien, dans Jeu de main, les plans rapprochés des outils de la manucure et de ses gestes légèrement tremblants trahissent le trouble de la jeune femme qui, comme le dira son beau client, l'a poignardé dans le cuticule. Leisen a ce sens du détail comique qu'il apparente presque à un cinéaste du muet dans l'économie visuelle qui fait que tout est dit en un plan, comme dans Éveille-toi mon amour, dont le scénario est modifié pendant son tournage en 1940 pour correspondre à ce qui se passe alors en Europe. Claudette Colbert, elle est journalistes américaines sur le vieux continent de plus en plus nazifié. On la voit dans un train, elle se met à lire Mein Kampf, et au bout de quelques pages, elle balance purement et simplement le livre d'Hitler par la fenêtre. Alors ce geste résume complètement Leisen, la façon dont il mêle sans complexe les genres, les échelles, mais aussi les tonalités, jusqu'à une sorte d'incongruité. Et si je voulais faire du biographisme, je verrais dans ce boitement un lien avec le pied bot dont il fut opéré enfant et qui le laissa claudiquant toute sa vie. Si les détails presque triviaux s'invitent dans la grande histoire chez lui, c'est que effectivement l'accessoire c'est tout sauf du superflu pour cet ancien étudiant en architecture, designer doué, qui a d'abord conçu, vous le disiez, les décors et les costumes pour Cécile B2000. Le costume est d'ailleurs au centre de la délicieuse comédie de 1937 La vie facile, où Jean Arthur, qui est rédactrice dans un magazine pour adolescents, reçoit un manteau de fourrure sur la tête alors qu'elle est dans le bus sans toit, un bus à l'impérial new-yorkais. Alors cette magnifique fourrure qui est expédiée par la fenêtre par un couple de millionnaires en pleine scène de ménage, en fait, commence par faire perdre son travail à l'héroïne, puisque son rédacteur en chef la croit forcément voleuse ou femme de petite vertu. Hein, ce ne sont pas les piches des journalistes, vous le savez, Antoine, qui permettraient d'acquérir un vison. Alors dans ce cinéma des années 30, les bijoux, les parures des riches narguent le dénuement des pauvres, et on voit l'héroïne de La vie facile grappiller des restes sur les plateaux d'un self-service. C'est une sorte de cantine à pièces, c'est un lieu étonnant qui n'existe plus hélas, dans une scène digne de Chaplin. Les meilleurs films de Leisen sont ceux qui mettent en scène non pas tant la lutte des classes que leur friction, le dérèglement bienvenu qui advient quand les deux mondes parallèles des ultra-riches de Manhattan et des petites mains de Brooklyn se croisent, s'accrochent et même parfois entrent en collision. Alors, comme Noël approche, je voudrais terminer sur un film de saison qui met en scène une cohabitation justement entre ces deux classes, et c'est L'aventure d'une nuit, en VO Remember the Night, on dirait une chanson de Johnny, mais c'est pas du tout. Où Fred McMurray, encore lui, puisqu'il a tourné 8 films avec Leisen, incarne un procureur qui condamne une voleuse de bijoux interprétée par la géniale Barbara Stanwyck, mais comme c'est Noël, il lui accorde un sursis, sauf que la détenue n'est pas du tout, n'a aucune gratitude envers ce geste, elle préférait 3 repas par jour en prison à être à la rue. Alors comme il se découvre des racines communes en Indiana, les voilà partis ensemble sur la route. Le procureur la conduit chez sa mère, mais une fois arrivé, il découvre derrière la porte l'horreur d'une misère noire, doublée d'un manque d'amour patent. Leisen change complètement de tonalité, comme on appuierait comme ça sur un interrupteur, et c'est tout le cinéma social d'un King Vidor qui fait furtivement irruption. Là, l'homme de loi et la voleuse passeront finalement Noël chez sa mère à lui, dans une famille plus proche de celle de Ford ou de Capra, mais entre-temps, dans cette espèce d'écrin humble qu'est une comédie screwball ou un road movie de poche, le voyage nous a laissé entrevoir les coulisses d'une Amérique pas encore remise de la Grande Dépression. Alors l'éclat des films de Leisen, leur parfum de haute couture, n'a en fait pas effacé cette doublure sociale réaliste, rongée par la guerre et mitée par l'angoisse des fins de mois difficiles. C'est avec ce Leisen-là, dans l'habitacle chaotique de la voiture de L'aventure d'une nuit, que je vous invite à passer votre réveillon.
Merci Charlotte Garçon. Michel Leisen, portrait d'un esthète en 10 films, c'est en coffret DVD Blu-ray chez Elephant Film. Plan large, c'est fini pour aujourd'hui. À la prise de son, Nicolas Leroulet. L'émission a été préparée par Anne-Vanessa Prévost et réalisée par Anne-Laure Chanel.